Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
À un moment donné, j'avais plus rien, mais j'avais mes boîtes de livres. Puis je me promenais avec mes boîtes de livres. Ça marche pas? Hein? Là, ça marche-tu mieux? OK. Fait que j'avais mes boîtes de livres. Je me souviens, à un moment donné, j'avais plus rien, là. J'avais un sac de farine avec lequel je me faisais du pain. On m'avait donné un pot de beurre d'arachide. J'étais très, très reconnaissant. Et un sac d'oignons. Alors, tu fais des sandwichs au beurre d'arachide avec des oignons coupés. Mais j'avais mes livres. Alors, tu m'as rendu nostalgique avec ce passage-là parce qu'effectivement, c'est les livres puis la sagesse à prendre qui est vraiment essentielle. J'ai-tu le petit... Ah, il est un petit bistrui. OK. Alors, je pense que ça va marcher. Ah, il n'y a plus de batterie dedans. Presque plus de batterie. Je ne sais pas si tu as des batteries pour... il y a un tiroir aussi. Fantastique. Merci beaucoup. Et donc... On est rendu à notre troisième message sur 1 Corinthiens. Et on va faire pas mal de tours. Aujourd'hui, on va pas mal faire le tour de l'Épître. On va revoir un peu l'Épître. Et déjà, en entrée de jeu, quand on a commencé, on a parlé que 1 Corinthiens, c'était vraiment le thème d'un Corinthien. Merci beaucoup, mon cher. C'était la croix dans son application sociale. Comment est-ce que ça se concrétise? Comment est-ce que ça se vit, ça, la croix? Puis Paul va parler de ça. Il mentionnera pas nécessairement le mot croix, mais on voit les applications partout. Donc, aujourd'hui, on va regarder l'autre et mes droits. Quand je dis l'autre, ben moi, c'est moi et vous êtes les autres. Alors, on est tous des autres pour quelqu'un. On fait tous partie des autres pour quelqu'un. Et donc, la croix, dans son application sociale, va toujours prendre en considération l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que même Dieu, on l'a vu tout à l'heure avec les passages qui ont été cités sur la gloire et ainsi de suite, même Dieu qui pourtant veut pas partager sa gloire avec aucune autre divinité, comme nous disent les prophètes, va nous donner sa gloire, va nous faire participer à sa gloire. Jean 17 va le dire qu'il nous donne la gloire, il nous donne à nous la gloire qu'il avait avant même l'incarnation. Il nous rend participants à cette gloire-là. On est les autres pour Dieu et regardez comment il s'occupe de nous en tant qu'autres. Ça marche. Ah, là, ça marche. Merci. OK. L'autre est mes droits. 1 Corinthiens, donc, c'est la croix dans son application sociale. Paul va dire, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Regardez comment c'est important. Hein? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quel sentiment? Quel sentiment? Lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Christ égal à Dieu, a pas considéré ça comme quelque chose de tellement important pour dire, ah non, écoute, moi je me salirai pas, là. Je suis Dieu. Wow. Hein? Il aurait pu claquer des doigts, on aurait été de la poussière d'étoiles, il aurait pu recommencer à zéro. Non, au contraire. Il a décidé de se souiller les mains, de se salir et de devenir homme, de venir sur la terre et de mourir pour nous. Il a pris ses responsabilités. Dieu, on est de la race de Dieu, acte 17. Il a pris sa responsabilité de créateur. C'est nous qui avons tout gâché. Mais attends, je vais assumer, moi, la conséquence. Je vais m'incarner, je vais aller sur la croix. Je vais mourir pour les êtres humains. C'était la faute de l'être humain. Mais Dieu a accepté d'assumer la conséquence et de venir sur terre. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La croix. La croix. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. » Mais ça veut dire quoi ça? Prendre sa croix. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre sa croix? Qu'est-ce que ça voulait dire pour Christ de prendre sa croix? Ça voulait dire, hein, je l'ai résumé un peu, on avait foutu le problème, foutu le trouble. Lui a décidé de venir, d'intervenir, de prendre, d'assumer sur lui le coût, de payer, et même s'il avait tous les droits, toute la gloire, tout l'honneur, il aurait pu dire, non, on recommence à zéro, fini. Il aurait pu, comme ça, vaporiser tout. Non. Au contraire, il a choisi la croix. Il a choisi la croix. Ça voulait dire l'ignominie, ça voulait dire assumer de se faire battre, de se faire cracher dessus, de se faire insulter, de se faire maltraiter, de se faire fouetter, de se faire massacrer, de se faire clouer et d'assumer de prendre sur lui les péchés de tous nous autres. La croix. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La croix. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de prendre sa croix? Qu'est-ce que ça veut dire? On entend ça des fois. La vie nous lance des croches, la vie nous met dans le pétrin, la vie nous bouleverse. Ah ben c'est ma croix. Non, c'est pas votre croix. La croix, c'est pas quelque chose qu'on subit contre notre gré. Christ a pris sa croix volontairement, il a donné sa vie volontairement. La croix, c'est pas quelque chose que je subis, c'est quelque chose que je prends volontairement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est pas ce que la vie nous pitche. C'est pas ce que la vie nous lance. C'est pas les traumatismes qu'on subit. C'est pas ce que les autres nous font. C'est pas les malheurs qui nous arrivent. C'est pas notre croix, ça. Ce ne sont pas notre croix. La croix, c'est quelque chose que l'on prend. C'est quelque chose dont on se charge. Et ce n'est pas pour nous. Christ n'est pas mort pour lui-même. Christ n'a pas pris sa croix pour lui-même. Christ a pris sa croix pour les autres. Christ est mort à ce qui lui revenait de droit pour que nous puissions en bénéficier, pour que nous puissions vivre. Prendre sa croix, ce n'est pas subir des choses, c'est se charger de quelque chose pour le bénéfice des autres. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est quoi donc? Christ est mort lui-même pour le bénéfice de tous. Quand on se charge de la croix, quand on prend notre croix, c'est qu'on suit Christ. Christ, il est allé à la croix. Nous le suivons, nous nous chargeons de notre croix parce que nous aussi, nous allons devoir payer un prix pour les autres. On renonce à nous-mêmes. On renonce à ce que nous avons droit. volontairement. Pas quelque chose qui nous est imposé, librement. Jésus a dit, il n'y a personne qui prend ma vie. Je la donne. Je la donne. C'est ça, prendre sa croix. C'est ça, agir pour le bénéfice des autres. 1 Corinthiens 6, 7 à 8, et vous allez voir, c'est le thème d'un Corinthien. 1 Corinthiens 6, 7 à 8, pourquoi ne souffririez-vous pas, ne souffririez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi, je retourne en arrière. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Donc, il se passait des choses dans l'église de Corinthe, hein, on se rappelle, vous l'avez certainement lu, ils amenaient les uns et les autres, s'amenaient en cour civile parce qu'il y avait des contretemps les uns avec les autres. Plutôt que d'aller voir l'église, plutôt que d'essayer de régler ça en croyant, ils allaient devant les injustes, hein, en croyant, pour régler leurs différends. Paul dit, comment est-ce que vous faites? Il n'y a pas des gens sages au milieu de vous pour qu'ils puissent trancher? Vous ne devriez pas, non, pas simplement souffrir plutôt quelques injustices? Prenez garde toutefois que votre liberté ne vienne pas une pierre d'achèvement pour les faibles. Ce que tu as le droit, tu es libre. Ça veut dire être libre, ça veut dire que je peux faire ce que je avais l'intention de faire. Mais que ma liberté ne soit pas une pierre d'achèvement pour l'autre. Encore une fois, mourir, hein, assumer de ne pas bénéficier d'un privilège, d'un droit qui m'est propre, qui est à moi, pour l'autre. N'avons-nous pas le droit de manger, de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Afin, et ce n'est pas pour les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Paul y dit, j'avais le droit de faire tout ça. Voyez-vous comment ça revient, le thème, dans 1 Corinthiens? Hein? Hey, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit. Mais ce n'est pas parce que j'ai le droit que je dois le faire. Librement, je peux mettre de côté quelque chose pour le bénéfice de l'autre. Pour le bénéfice de l'autre. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Regardez ici les regards qu'on a ici. Les regards. On doit avoir un regard sur Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Mais c'est pas parce que je fais quelque chose pour la gloire de Dieu que j'oublie les autres. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. Paul, il était un acharné, Paul. Paul, il cherchait pas son intérêt, Paul. Paul cherchait l'intérêt des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Prendre sa croix, ce n'est pas subir quelque chose. Prendre sa croix, c'est volontairement accepter de payer le prix pour l'autre. Et ça, c'est un thème qu'on voit partout dans 1 Corinthiens. Partout. Regardez ici. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il dit, je m'efforce en toute chose de complaire à tous. Il veut plaire à tout le monde. C'est sûr qu'on ne peut pas jamais plaire à tout le monde. Mais c'est son but, de complaire, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et regardez ce qu'il dit, c'est malheureux, parce que en français, en anglais, je suis sûr en arabe aussi, nos Bibles sont séparées en chapitres, sont séparées en versets. À l'époque, il n'y en avait pas de chapitre, il n'y en avait pas de verset, c'était tout d'un long. Okay. Verset 1 du chapitre suivant. Ah oui, je vais juste parler de ça. Regard vers Dieu, regard vers tous les autres. Verset 1 du chapitre 11. Après le 10-31, c'est 11-1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Imiter Christ en quoi? Cherchez non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. C'est comme ça qu'il voulait, il était imitateur de Christ. Il dit, soyez mes imitateurs. Il vient de leur dire ça. Et ça englobe tout Corinthien. On pourrait parler du voile. Encore, c'est pour les autres. On pourrait parler de plein de choses dans un Corinthien. Pour les autres. Pour les autres. Oui, tu as le droit. Oui, tu es libre. Oui, pour les autres. Est-ce que ça édifie l'autre? Tout de suite après, donc, il vient de citer ça. Même toute la question des dons, hein? On pourrait parler de ça, j'en parlerai pas, mais on pourrait parler des dons, les dons spirituels. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour les autres. Je n'ai pas un don pour moi, j'ai un don pour les autres. Ça sert-tu aux autres, oui ou non? Non! Ça n'a rien. L'utilité, que tout s'est donné pour l'utilité commune. Regardez, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On est dans un corps. Ce n'est pas pour rien que dans 1 Corinthiens 12 à 14, où est-ce qu'il parle des dons, il met tellement d'emphase sur le fait qu'on est un corps, sur le fait que ça doit être pour l'utilité commune. Pourquoi? Parce que moi, ma vie spirituelle, ce n'est pas premièrement pour moi. C'est à la gloire de Dieu, au regard des autres. Oui, j'en tire bénéfice. Christ, il y a une gloire supérieure à celle qu'il y avait avant tout ça. Oui, il en a tiré des bénéfices. Oui, il y a un nom plus grand, il y a un nom supérieur. Oui, il va en tirer des bénéfices. Nous, on va avoir des récompenses. On va avoir des récompenses. Mais le but, ce n'est pas la récompense. Le but, c'est la gloire de Dieu, le regard des autres, l'utilité commune, marcher avec Dieu, marcher, servir Dieu. Servir les autres. Mais c'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Servir Dieu, servir l'autre. Aimer Dieu, aimer l'autre. Si tu n'aimes pas l'autre, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer l'autre. C'est jamais divisé, c'est jamais séparé, c'est jamais l'un sans l'autre. Comme si Dieu... On ne peut pas séparer ça. Dieu l'aime l'autre, il veut que tu l'aimes l'autre. Dieu est mort pour servir l'autre. Serre l'autre. C'est fou, là. On le voit tellement dans 1 Corinthiens. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment, que ce soit pour l'édification de l'Église. En passant ici, il y a une petite... Je ne sais pas pourquoi les traducteurs l'ont traduit comme ça, parce que dans le grec, c'est vraiment pas ça. C'est juste une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le message, mais c'est quand même intéressant, parce que don puis spirituel, c'est même pas dans le texte. Littéralement, c'est les esprits. Pourquoi? Hein? Vous, puisque vous aspirez aux esprits, au pluriel en plus, que ce soit pour l'édification de l'Église. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement les Corinthiens, là, mais dit peu importe, que ce soit pour l'édification de l'Église. Il était charnel au début du livre. Il était charnel, là. C'est même pas spirituel qu'il voulait être. Il cherchait les esprits. Paul, il leur donne même pas le crédit de rechercher ce qui était spirituel. Il dit, vous cherchez les esprits. Mais il dit au moins que ce soit pour l'éducation du corps. Que faire donc, frère, lorsque vous vous rassemblez les uns aux autres? Est-ce que quelqu'un a un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? C'est beau pour l'éducation. L'éducation de moi? Tu n'as rien compris. Non, l'autre. Tu ne parles pas en langue. Combien de fois j'ai entendu ça? Tu parles en langue parce que ça t'édifie toi-même. Non! C'est pas le but de l'épître. Le but, c'est l'autre. Est-ce que ça sert l'autre que tu parles en langue? Ça ne sert pas l'autre, ben tu ne comprends rien. Lui non plus, d'ailleurs, tu parles en langue. Si ce n'est pas utile pour lui. OK? Pour l'édification. Comprenez? Mais c'est quoi le problème avec les autres, c'est qu'ils sont là? C'est vrai! J'ai entendu un missionnaire où on me disait, je serais tellement un bon missionnaire si je n'avais pas tous ces gens-là qui viennent me taper ses nerfs. Mais tu veux dire, pourquoi d'abord? Fait que le problème avec les autres, c'est qu'ils sont là. C'est fatigant, les autres. Parce que toi, là, dans toute ta bonne... Moi, dans toute ma bonne volonté, m'en prendre ça sur moi. Moi, là, dans toute ma bonne volonté, je veux servir Dieu, je le fais pour les autres, jusqu'à temps que l'autre monte sa face. Parce qu'il a le don de me taper ses nerfs, là. Puis là... Puis là, là, tout, quand t'es dans ta tête, puis tu fais des plans, ça va bien. Tu prêches, les gens se convertissent toutes. Tu sers quelqu'un. Merci, t'es tellement fin. Dans la réalité, tu sers quelqu'un, il te regarde même pas. Il se décrotte le nez. Toi, t'es là. Hein? Tu veux donner une claque? Là, t'étais spirituel, tu as tombé charnel en un quart de seconde. C'est vrai. Le problème avec les autres, c'est qu'ils sont là. C'est beau prêcher un message comme je viens de faire là. Théoriquement, c'est fantastique. Mais quand c'est concret, quand les autres sont là, j'allais dire un gros mot, je le dirai pas. Mais c'est vrai. Quand ils sont présents, les autres, là, puis là, toi, tu marches dans le Seigneur. Toi, tu, hein, toi, là, t'as fait des, pendant longtemps. Hein, j'avais décidé, moi, que parce que le ministère auquel j'appartenais avait décidé de pas boire d'alcool. Ben, moi, j'avais pas de problème avec le boire de l'alcool. J'ai jamais eu de problème avec l'alcoolisme. J'ai pas de problème bibliquement non plus. Mais pendant 15 ans, je pense, je ne sais pas combien d'années, j'ai pas bu d'alcool. Parce que pour les autres. J'ai pas de problème pour les autres. Après ça, des années plus tard, on me dit, oui, mais Patrice, c'était un des rares qui faisait ça. Comment j'étais un des rares qui faisait ça? Pourquoi on ne me l'a pas dit, moi? J'étais spirituel jusqu'à temps qu'on me dise ça. Je me suis privé pendant toutes ces années-là, puis j'étais un des rares. C'est que c'est ça. Mais le problème, c'est ça, c'est quand on se compare, quand on commence à se comparer avec l'autre, que là, on risque de tomber charnel. Parce que le but de la marche chrétienne, même si on doit avoir, même si les autres ont un regard sur moi, ça me regarde pas ce que l'autre fait. Mettez tout votre honneur à vous mêler de vos propres affaires. 1 Thessaloniciens 4, 11. Mettez tout votre honneur à vous mêler de vos propres affaires. Ça me regarde pas. C'est pas de mes affaires. Moi, je peux les encourager. S'ils pêchent, je peux aller les voir, essayer de se dresser. Mais s'ils ne veulent rien savoir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis pas dans leurs souliers pour qu'ils marchent avec Dieu. 1 Pierre 4, 15. Tourne avec moi, là. C'est beau comme verset. Que l'une de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Ça, je comprends. Il n'y a pas personne qui veut être meurtrier, là. Ou voleur. Non plus, un chrétien, ça ne vole pas. Malfaiteur. Non. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Meurtre, vol, malfaiteur, s'ingérer dans les affaires d'autrui. C'est quoi, là? J'aurais jamais mis ça dans la même catégorie que meurtrier, malfaiteur ou voleur. Me mêler des affaires des autres. Mais c'est ça qui est écrit. Ailleurs, il va dire, aie soin les uns des autres, assure-toi. Alors, tu vois l'autre péché, va, reprends-le. Mais une fois qu'il a dit non, souffert, tu l'achales pas, tu l'harcèles pas. Empête-toi, qu'est-ce que je te dis? Si t'as besoin, si une fois qu'il est dans le bourbier, t'as besoin d'aide, mais moi, elle rentre dans le bourbier avec toi, moi, de sortir, pas de problème. Mais entre-temps, l'autre est là. Et le problème dans ça, c'est que, tu sais qu'il va falloir que tu assumes la conséquence plus tard. Tu sais que ça fait 20 fois que la personne, à tous les années, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 10 ans, elle t'appelle, je suis dans le problème. Tu vas aller l'aider. Puis à moins qu'elle se repente, à moins qu'elle change, à moins que... Il faut que tu l'aides. Parce que tu l'aimes. À un moment donné, j'ai dit non. parce que je savais qu'aider l'autre, c'était pas l'aider. T'es pas obligé d'aider quelqu'un dans le pétrin. Mais c'est l'autre. Faut que tu cherches à savoir quelle est la meilleure manière de l'aider. L'autre. Fait que le problème avec l'autre, c'est qu'ils sont là. Puis, on fait quoi avec ceux qui trouvent les demandes de la Bible exagérées? Il y en a plein qui disent ça. Puis toi, tu ne les trouves pas exagérées. Toi, là, tu veux vivre ta vie pour le plus plaisant à Dieu possible. Puis l'autre, tu dis, ben peut-être que ça, c'est pas Dieu. Ah, ben là, c'est exagéré. Là. On n'est plus au premier siècle. Là. On est rendu au 21e siècle. C'est dépassé, ces histoires-là. Là. Fait que là, toi, tu as le choix de marcher en bonne conscience devant Dieu avec les Écritures. S'il veut pas comprendre raison, il veut pas comprendre raison, mais que son attitude affecte pas ta marche, par exemple. Baisse pas tes standards à toi parce que l'autre veut rien faire ou veut pas en avoir les bons standards. On fait quoi avec ceux qui cherchent leur propre avantage? On fait quoi avec ceux qui ne servent pas Christ, mais leur propre ventre, va dire Romains 16. Ils servent pas Christ, ces gens-là, ils servent leur propre ventre. Quand toutes les demandes de la Bible sont trop exagérés, la personne n'est pas en train de servir le Dieu de la Bible. Elle est en train de se servir elle-même. Alors, le problème dans ça, une fois que tu as diagnostiqué la situation, parce que tu as le droit, la Bible est claire, tu regardes, écoute, tu as un symptôme, tu as la déclaration de la Bible, les deux concordent, ben voilà, le symptôme a été diagnostiqué pas par toi, mais par la Bible. Fait que c'est pas toi qui as jugé la situation, c'est Dieu dans les Écritures qui juge la situation, et toi, tu ne fais que confesser, dire la même chose que Dieu sur la situation. C'est pas juger, ça, c'est confesser. OK? Alors, une fois que tu as ça, que ça n'affecte pas ta marche. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Oui, mais tu viens de dire qu'il fallait servir l'autre. Oui, mais c'est pas devant l'autre que tu tiens, c'est devant Dieu que tu tiens. Parce que le problème avec les autres, c'est qu'ils sont là, puis que si tu es concentré sur les autres, ça va te taper ses nerfs, tu vas t'épuiser, tu vas tout lâcher, tu vas plus rien savoir, tu vas dire, manger tout de là. C'est ça qui va se passer. Parce que plus on s'en va, plus les gens veulent rien savoir de Dieu, même les chrétiens. Disent, ben, la Bible, c'est exagéré, les demandes de Dieu dans la Bible, fait que de là. Fait que là, toi, t'es là, t'essaies de faire ton possible. Ça marche pas. Faites tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ça, c'est tough quand les autres sont là. Parfois. Si t'es concentré sur les autres, c'est sûr que c'est difficile. Sûr que t'essaies de servir quelqu'un qui a un air de bœuf, là. De bon cœur. Écoute, je vais me confesser après. OK? Non! Non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a pas d'exception de personne. Il n'y a pas d'exception. Tu fais ce que tu dois d'après les Écritures, d'après ce que Dieu te montre. Et c'est pas un ou l'autre, hein. C'est pas, ah, Dieu montre de pas faire les Écritures. Non, ça arrivera jamais, ça. Ça arrivera jamais que le Saint-Esprit te convide de quelque chose, de faire quelque chose de différent des Écritures. Ça peut juste être plus. Pas être moins. Ça peut juste dire, écoute, va donner, je sais pas moi, 100$ à ce monsieur-là, parce qu'il en a besoin. Tu peux pas ôter les exigences des Écritures. Je veux dire, ben, selon ce que je comprends, oui, c'est le Dieu d'aider les pauvres, oui, c'est le Dieu de faire du bien, donc je peux, puis là, t'sais, mais je diminue pas mes exigences parce que ça me tente pas. Mes standards. OK? Donc, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est quelque chose d'autre que Corinthiens parle, puis c'est par rapport aux autres, mais c'est un petit peu, c'est comme une suite là, dans le message, juste ou plutôt un appendice. Parce que Paul va dire, écoutez, les autres, c'est beau, là. Mais si tu tiens avec des gens qui n'ont pas des bonnes mœurs, des bonnes, qui ne sont pas des bonnes compagnies, là, ça va corrompre tes mœurs. Ça va te, ils vont te traîner vers le bas. Donc. C'est rare qu'un homme sage, tu vas traîner quelqu'un vers le haut. C'est sûr que si toi, tu es moins sage, puis tu dis, écoute, moi, je veux apprendre. Moi, je sais pas c'est quoi des bonnes mœurs. Hein? Ben, je veux apprendre, tu tiens avec les sages, tu vas devenir sage. Mais si toi, tu tiens avec la gang, parce que tu es la gang, puis parce que la gang, eux autres, ils ont moins les exigences élevées, ben, ça va te tirer vers le bas. Puis à un moment donné, tu vas commencer à avoir les mêmes confessions qu'eux autres. Ah, le pasteur exagère. Là. Hey! Oh, c'est la Bible. Hey, on n'est plus au premier siècle, là. On n'est plus dans l'Ancien Testament, là. C'est quoi ces standards-là, arriérés? Non, les standards de Dieu ne changent pas, là. Ça ne change pas, les standards de Dieu, là. Revenez à vous-même, comme il est convenable. C'est, reviens, sors-toi. Hey, qu'est-ce que je fais là, moi, me tenir avec ces gars-là? C'est quoi, là? Reviens à toi-même, comme il est convenable, et ne pêche pas, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y en a qui ne connaissent pas Dieu, que c'est leur honte? Bien, d'une part, parce qu'ils devraient au moins savoir qu'il y a un Dieu et qu'il y a l'Évangile. Mais aussi, c'est qu'ils se tiennent avec des gens comme ça. Non pas pour faire une différence, mais parce qu'ils se plaisent dans leur différence à eux autres. Si tu vas avec ces gens-là, c'est pas pour te complaire. C'est comme un ministère. Puis si le ministère t'affecte, si tu commences à baisser tes exigences, sors de là. Sors de là. Tu n'es pas en train d'avoir un ministère. C'est eux autres qui ont un ministère à ton égard. Pas une bonne idée. Comme il est juste. Ce qui est convenable, là, dans le grec, c'est comme il est juste. Comme il est juste. C'est juste de faire ça. C'est reviens. Le mot revenir, là, c'est comme sors de ton ivrognerie. Hein, t'as pris une cuite, là, t'es saoul, là, t'as la misère à voir tout clair, là. Reviens à toi-même, le sens du mot grec, là. Hey, réveille-toi, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que t'as fait là? Hein? Ressors de ça. Comme il est juste, pêche pas. Ressors. Éloigne-toi de ça. Veillez. Tenez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Affermissez-vous. Que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. Hein? Amour, l'autre. 1 Corinthiens 13, l'autre encore. Mais malgré l'autre, il dit quoi? Toi, là, veille, tiens ferme, sois des hommes, ou des femmes, quand même. Pour les hommes, des femmes, mais des femmes qui sont viriles dans la foi. Affermissez-vous, ça veut dire, continue de t'affermir. Pas de t'affermir, de t'affermir. Que toute chose se fasse dans l'amour. OK. Bon. Tu peux éteindre l'écran, s'il te plaît. Ah, merci. OK. Donc, on a vu un petit peu, hein, le topo dans les trois derniers messages qu'on a fait ensemble. On a vu l'importance pour Paul dans Corinthiens, l'importance d'une marche qui est saine et qui est pure devant Dieu. On a vu l'importance de l'autre. On a vu l'importance que oui, j'ai des droits, oui, j'ai des responsabilités, mais je dois toujours avoir ce double regard, un regard qui est porté vers Dieu, un regard qui est porté sur l'autre. Je dois faire les choses à la gloire de Dieu. Je dois faire les choses pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre, parce que j'aime l'autre. Dieu aime l'autre. Dieu veut que j'aime l'autre et que je lui manifeste l'amour que Dieu a pour lui. On a vu que les autres, c'est pas toujours le fun. Dans notre tête, quand c'est juste théorique, là, c'est parfait. Mais quand la réalité touche, là, tu dis, hey, vaut-tu une sacrée patience? Honnêtement, là, dans la vraie chose, là, quelqu'un téléphone, tu vois le numéro. En premier vient le charnel. Et après ça, tu dis, là, tu réponds, tu es content de le voir parce que tu sais que la personne t'appelle, elle a un besoin, puis tu as ce que Dieu tu as ce qu'il faut pour répondre à ce besoin-là devant Dieu. Puis tu peux administrer la grâce, administrer l'amour, administrer la faveur de Dieu pour cette personne-là. Puis on est appelé à ça, chacun pour notre part. On est appelé à faire une différence dans l'autre. On n'est pas appelé à baisser les standards. Savez-vous que le monde nous regarde? Puis tout ce qu'il espère, c'est qu'on baisse tellement les standards qu'il n'y ait plus de différence entre le monde et l'Église. Puis le jour où est-ce que ça va se passer, là, savez-vous ce qui va s'être passé? On va avoir fermé la switch, fermé la lumière. Ça va être que ténèbres. Tu mets une petite ampoule là, comme on avait quand on était à l'école pour faire nos trucs. Là, aujourd'hui, c'est des LED. Là. Mais 1,5 volts, une petite ampoule de rien du tout. Là. Mais dans un monde de ténèbres, c'est encore trop éclairant. On aura beau baisser les standards de l'Église, baisser les standards de la parole, autant comme autant. Tant qu'on ne sera pas aussi ténébreux que le monde ne voudra rien savoir de nous. Parce que ce qui fait la différence, c'est ce qui détonne. C'est la clarté, c'est le soleil qui change. C'est pas de fermer le soleil ou de fermer la lumière pour s'accommoder au monde. Ce qui fait la force de l'Église, c'est sa différence. Ce qui fait son témoignage, c'est sa différence. Ce qui est sa puissance. La puissance, Dieu veut pas, va faire une différence. Puis les gens qui veulent rien savoir de Dieu voudront rien savoir de toi. Il faut l'assumer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.